ambassadeur dans les chaînes. Émission proposée par John Graz à partir de son livre « Fortifie-toi et prends courage ».
Nous sommes tous appelés à être, là où Dieu nous a placés, des ambassadeurs du royaume des cieux. Autre lecture. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Éphésiens 6, 19 et 20.
Petite histoire écrite par John Graz. Je suis assis depuis quelques minutes au salon de la compagnie United Airlines à Los Angeles. En plus de la fatigue, je garde en mémoire les images de mon premier voyage en Chine et à Séoul. Dans une quinzaine d'heures, je retrouverai ma maison et Medina qui m'attend. Après une bonne dizaine de jours en Asie, l'heureuse impression d'être presque arrivé est contrecarrée par le sentiment que ce n'est pas le cas. Les heures qui vont passer semblent une éternité. La sonnerie de mon téléphone me ramène à la réalité. C'est Marilyn, ma secrétaire, qui m'appelle de mon bureau de Silver Spring. « Docteur Graz, j'ai besoin de vos informations de passeport et de votre numéro de sécurité sociale. « Pourquoi ? » ai-je répondu. « La Maison-Blanche a appelé et il vous invite à une réunion là-bas. » Il y a 2 années que j'ai aménagé dans la région de Washington et la Maison-Blanche m'invite. Je me demande si c'est une blague, le genre de blague que l'on se fait parfois entre collègues. « Allô ? C'est le président des États-Unis. Il veut vous parler au sujet de la situation mondiale. » Dans ce cas, on répond quelque chose comme « Vous faites erreur. Ici, c'est le bureau de Sa Majesté la Reine d'Angleterre. » Et cela se termine par des rires. « Non, ce n'est pas une blague. Vous êtes invité par la Maison-Blanche pour la présentation du premier ambassadeur de la liberté religieuse dans le monde. » J'avais suivi les travaux d'un groupe d'experts, dont plusieurs deviendront mes amis, sur la nouvelle loi de 1998 ou 98. Cette loi prévoyait la création d'une commission parlementaire, d'un bureau de la liberté religieuse internationale attaché au département d'État sous la direction d'un ambassadeur. C'était lui qui serait présenté aux représentants des églises et groupes religieux par Bill Clinton. Au jour convenu, je pris le métro et me rendis à la Maison-Blanche. On m'avait dit que non seulement le président serait présent, mais également la secrétaire d'État Madeleine Albright. Rencontrer ces deux personnages semblait pour moi irréel. Je n'en avais jamais eu l'occasion. Comme je ne voulais pas être en retard pour la réunion, je suis arrivé devant la Maison-Blanche 3 heures avant. Presque tous les bancs du Square Lafayette ont reçu ma visite. J'ai regardé la statue de Rochambeau sous tous les angles. Les caméras du service de sécurité ont dû me repérer. Enfin, 30 minutes avant l'heure, je me suis présenté au portail. Et là, le policier m'a informé que la réunion était retardée d'une demi-heure. Enfin, avec plusieurs autres invités, je suis entré dans la salle Roosevelt. J'allais voir le président et je ferai mon possible pour parler au nouvel ambassadeur. Mon but était de l'inviter. Ce serait un privilège et un honneur d'avoir à mes côtés le premier ambassadeur de la liberté religieuse. Et c'est ce qui s'est passé. Par crainte d'être en retard, j'étais arrivé trop en avance. Mais l'important, n'était-ce pas d'être là au bon moment, quand la porte s'ouvrit ? Écoutons maintenant le message de John Graz.
Pour qualifier son ministère, l'apôtre Paul utilise le terme d'ambassadeur dans la lettre qu'il envoie aux chrétiens de la ville d'Éphèse. Il écrit cette lettre en prison, à Rome. Elle fait partie des lettres de la captivité, comme celle aux Colossiens et à Philémon. Malgré sa situation, Paul a conscience d'être investi d'une mission particulière. Il a conscience de représenter une entité bien concrète et pas n'importe laquelle. C'est moi, John Graz, c'est moi qui vous parle, et je suis heureux de vous retrouver une fois de plus. Alors, Paul est l'ambassadeur de l'Évangile, ambassadeur de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il se présente. Il ne se prend pas pour un Superman, il ne s'est pas autoproclamé ambassadeur, il l'est vraiment, et cela depuis que le Seigneur l'a appelé sur le chemin de Damas. Il sait qu'il est l'envoyé du Seigneur et il connaît sa mission. Dans sa première lettre aux Corinthiens, une lettre écrite quelques années avant sa lettre aux Éphésiens, il dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. » Paul est un héros qui ne joue pas au héros. Il reconnaît ses faiblesses. Il est passé par tant de moments difficiles, tant de questions se posent à lui dans cette prison humide et froide. Il recommande aux chrétiens d'Éphèse de prier pour lui. Une telle requête est déjà en soi pour lui, pour quelqu'un comme lui, un acte d'humilité. C'est en effet admettre qu'on a besoin de l'aide de ses frères et sœurs et pas seulement l'aide de Dieu. Oui, Paul aurait pu dire « La prière, c'est mon affaire, hein. Moi je m'en charge. Moi, Paul, je parle directement à Dieu, alors ce n'est pas la peine que je vous demande à vous de prier. Je sais que Dieu m'écoute, je prierai pour vous, ça c'est important, mais vous, inutile de prier pour moi. » Non. Et il explique pourquoi. Pourquoi il faut prier pour lui, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Et il ajoute, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Malgré la prison, malgré les mauvais traitements, il ne remet pas en cause son rôle d'ambassadeur de l'Évangile. Il sait ce que cela signifie. Il est dans les chaînes, mais il n'est pas un prisonnier ordinaire. Vous savez, le statut que la société donne et a toujours donné aux prisonniers n'est pas reluisant. Mais cela ne l'affecte pas outre mesure. Son titre, il ne le doit ni à Rome ni à Jérusalem. Son titre d'ambassadeur, lui, vient de Dieu lui-même. Peu importe le lieu où il se trouve, les circonstances, il est d'abord un ambassadeur. Peu importe qu'il soit libre ou dans les chaînes, en prison, il est l'ambassadeur de l'Évangile, l'ambassadeur du Christ Sauveur. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? En réalité, en tant que disciple du Christ, notre identité, notre rôle dépasse celui que nous attribue l'état civil ou notre position dans la société. Quelle que soit notre profession, notre titre, nous sommes avant tout des ambassadeurs de la bonne nouvelle. Dans le peuple de Dieu, il n'y a pas des ambassadeurs de première classe, des ambassadeurs de seconde classe, des ambassadeurs à plein temps, des ambassadeurs à temps partiel. Nous sommes tous des ambassadeurs sur notre lieu de travail, mais aussi à la maison, pendant nos occupations habituelles, comme pendant nos loisirs. Pendant des années, j'ai été invité, mais j'ai aussi invité un certain nombre d'ambassadeurs. Et là, je peux vous garantir que le sentiment qu'ils avaient de représenter leur pays, je devrais dire aussi l'honneur, car pour la plupart, c'était un honneur avant d'être une fonction, ne s'arrêtait pas à la fermeture des bureaux. Quand on est choisi comme ambassadeur, on l'est 24 heures sur 24. Et s'il arrive de l'oublier, les conséquences peuvent être dramatiques. Alors, quelles sont les fonctions d'un ambassadeur? Un ambassadeur est, premièrement, le représentant d'un État auprès d'un autre. Nous représentons le royaume de Dieu, là où Dieu nous a placés. Deuxième fonction, l'ambassadeur est un envoyé chargé d'une mission. Nous sommes les envoyés du Seigneur chargés de la mission d'annoncer la bonne nouvelle du salut à tous. Nous avons une mission à remplir. Nous n'en avons pas toujours conscience, mais c'est une réalité. Nous sommes là où le Seigneur nous a envoyés. Pourquoi ? Pour être les témoins d'un monde nouveau, pour apporter l'espoir par nos paroles et nos actes. Nous ne sommes pas seuls dans notre mission. Le Maître nous accompagne, comme il a accompagné avant nous et tout au long de l'histoire les témoins de la foi. Dieu a placé certains à des positions très élevées, comme Joseph, Daniel, Esther, Néhémie. D'autres étaient des esclaves, comme la jeune servante du général de l'armée syrienne Naaman. Mais tous sont des exemples pour nous. Prenons le cas de Daniel. Daniel était jeune lorsqu'il fut déporté à Babylone. Pendant 3 années, il étudia la science des Babyloniens, leur civilisation, leur religion. Il s'immergea dans leur monde. Il fut enseigné par des professeurs, des sages, qui ne partageaient ni sa foi ni ses valeurs. Ils le regardaient, peut-être de haut. Ils étaient persuadés, eux, de détenir la vérité. Il a eu affaire à des dirigeants qui jugeaient son peuple comme un peuple vaincu, inférieur. Jérusalem et son temple avaient été détruits, et si le Dieu de Daniel n'avait rien fait pour la protéger, il était impuissant selon eux. Le Dieu de Daniel était pour les vainqueurs le Dieu vaincu d'un peuple vaincu. Le regard que l'on porte généralement sur les vaincus n'est pas source d'encouragement, bien entendu. Vous dites que Dieu, votre Dieu, est votre force, mais où était-il ce Dieu ? Quand nous vous avons humilié, quand nous avons détruit son temple, où est-il maintenant ? Soit il vous a oublié, soit il n'existe pas. Daniel et les 3 Hébreux étaient à la cour du roi de Babylone, mais ils étaient les vaincus et on les regardait comme tels. Toutefois, malgré sa situation, Daniel savait qu'il était l'ambassadeur d'une puissance bien supérieure à Babylone. Son royaume est éternel. Rien ni personne ne pourra le vaincre. Il était l'ambassadeur du royaume éternel de Dieu. Il savait d'où il venait et quelle était sa mission. Cette conviction le protégeait de l'influence négative, destructrice des officiels de Babylone. Il fit des études brillantes. Il devint le conseiller du roi Nebuchadnezzar. Il survit à la chute de l'Empire. Il retrouva une place de choix auprès des dirigeants perses. Et durant sa période de formation, à l'université et au palais, il acquit des connaissances utiles et bien sûr d'autres futiles. C'est aussi notre cas. Là où Dieu nous a placés, il a passé des examens, Daniel. On l'a évalué sur le plan professionnel. Il aurait pu oublier Dieu. Il aurait pu adopter la religion des vainqueurs, s'assimiler complètement. Mais il est resté l'enfant de son peuple. Il avait conscience d'être un ambassadeur du royaume de Dieu.
Vous écoutez une émission proposée par John Graz à partir de son livre « Fortifie-toi et prends courage ».
Pendant plus de 10 ans, j'ai étudié dans les universités de Grenoble, de Montpellier, puis à Paris, à l'École pratique des hautes études et finalement à la Sorbonne, où j'ai passé mon doctorat. Aujourd'hui, je dois l'avouer, j'ai presque tout oublié. Et comme le disait Édouard Henriot, La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Mais quand même, je garde le contact avec des professeurs de renommée internationale avec qui je suis devenu ami et que j'ai souvent invité dans nos congrès. Après des années, ce qui reste est la manière dont Dieu m'a conduit, de ses interventions, de ses miracles. Avec lui, tout est possible. Souvent, je lui ai dit, « Seigneur, prends-moi la main, et si c'est ta volonté que je réussisse cet examen, alors je réussirai. » Il était avec moi dans mes luttes, dans mes joies. Je le savais. C'était merveilleux, je n'étais pas inquiet, car je faisais ces études pour mieux le servir. Si vous avez cet état d'esprit, vous ne craignez rien. Comme Daniel, vous réussirez. Vous faites partie du peuple de Dieu. Et le Seigneur vous dit, « Parce que tu as du prix à mes yeux, ne crains rien, car je suis avec toi. » À ce sujet, j'aime la citation d'Ellen White. Elle écrit, « Dieu ne demande point à la jeunesse d'être moins ambitieuse. Il ne veut pas qu'on étouffe en elle la volonté indomptable, l'effort vigoureux ou l'infatigable persévérance, pas plus que le désir de réussir et d'être honoré parmi les hommes. » Daniel suivait des principes qui l'ont aidé à réussir et qui faisaient sa force. J'en ai noté 10. Le premier principe, c'est qu'il a une relation personnelle avec Dieu. Il priait souvent et beaucoup. Il étudiait les écrits des prophètes, la loi, il était à l'écoute de Dieu et Dieu pouvait lui parler. Sa vie est un dialogue avec son Créateur. Deuxième principe, il est fidèle. Fidèle à Dieu, à ses commandements, à son style de vie, à son peuple. Le roi lui donne un autre nom, Belshazzar, mais Daniel n'est pas devenu pour autant un Babylonien. Il reste fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Troisième principe, il croit aux promesses de Dieu. Le roi de Babylone croyait que son empire serait éternel. Daniel savait qu'il finirait un jour. Le fait de croire à la parole de Dieu lui donnait une sagesse supérieure à tous les sages du palais. Il sait que Dieu dirige l'histoire et non les hommes. Quatrième principe, il est humble. Quelles que soient les circonstances, il s'en réfère au Seigneur et non à sa capacité personnelle. Cinquième principe, il accomplit consciencieusement la tâche qui lui est confiée. Dans sa vie, rien n'est secondaire quand il s'agit de faire le bien. On respecte ceux qui sont sérieux dans leur travail. Et puis, sixième principe, il est honnête. Honnête avec lui-même, honnête avec les autres, sa vie et son comportement imposaient son autorité. Septième principe, il avait le courage de ses convictions et le tact pour les partager. Il fallait du tact pour annoncer au grand roi Nebuchadnezzar que son empire allait s'écrouler et que lui-même perdrait son pouvoir. Huitième principe, il respecte les lois de la santé. Daniel avait une hygiène de vie. Il ne participait pas aux soirées arrosées d'alcool. Il gardait un esprit clair. Neuvième principe, sa vie a un but, un sens. Il est l'ambassadeur du roi des rois. Son but, faire connaître l'amour de Dieu aux grands, aux puissants, faire connaître la vérité. Communiquer la bonne nouvelle du salut, la sagesse des commandements, la nécessité de la justice. Et enfin, dixième principe, il sait qu'il est l'ambassadeur d'un monde meilleur. Ces principes ont fait du prisonnier hébreu venu à Babylone comme otage, représentant d'un peuple vaincu, humilié, le premier parmi les sages du roi. Au roi Belshazzar, La reine présente Daniel comme un esprit supérieur d'une sagesse extraordinaire. Ses principes, qui ont fait de lui un homme respecté et craint au milieu d'un monde corrompu, feront de chacun de nous des hommes et des femmes capables de remplir une grande mission. Certains diront, à notre âge, Joseph sortait de l'adolescence lorsqu'il fut vendu comme esclave, mais dans l'esclavage, il savait qu'il était, même adolescent, ambassadeur du royaume de Dieu. Moïse, lui, avait 40 ans quand il s'enfuit d'Égypte. Il était au sommet de sa carrière. Un grand avenir l'attendait à la cour de Pharaon. Désormais, il gardait les moutons dans une région isolée et désertique. Et à cette époque, il ne se voyait pas comme l'ambassadeur du Créateur, mais il se voyait comme un berger parmi les bergers. En réalité, il était un ambassadeur, mais un ambassadeur en formation. Daniel, lui, semblait être en totale disgrâce quand le roi le jeta dans la fosse aux lions, mais rejeté de tous, livré aux bêtes sauvages, il savait qu'il était avant tout et pour toujours l'ambassadeur de Dieu. Il est possible que la place que vous occupez, la profession que vous avez, votre situation n'est rien de très attractif. Vous pensez même que cette histoire d'ambassadeur, ce n'est pas pour vous. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes déjà un ambassadeur en formation. Il est possible aussi que vous soyez plein de promesses et que votre avenir semble tout tracé. On vous laisse entendre qu'avec un peu de compromis, hein, des petits compromis, des compromis secondaires, vous allez devenir quelqu'un de très important. Alors là, si c'est votre cas, n'oubliez pas que vous êtes d'abord l'ambassadeur du Très-Haut, du Créateur des cieux et de la terre. Et la promesse que le monde vous fait est illusoire, comme toutes ces promesses d'ailleurs. Ces promesses sont illusoires comparées aux promesses de Dieu. La question n'est pas de savoir si nous sommes ou non un ambassadeur, une ambassadrice de Dieu, car en réalité, nous le sommes. La question est plutôt comment être un bon ambassadeur, une bonne ambassadrice. Et pour cela, pratiquons les principes que suivirent Daniel. Car le monde a besoin d'hommes, d'hommes et de femmes comme Daniel, comme Joseph, comme Paul, qui agissent pour la cause de Dieu. Il a besoin de cœurs purs, de mains fortes, de courage indomptable.
Pour être pratique.
Trois points pour être pratique. Premier point, en nous appelant à le suivre, comme il a appelé ses disciples, Jésus fait de nous des ambassadeurs du royaume des cieux. Deuxième point, le titre d'ambassadeur n'est pas en rapport avec la position dans la société, mais elle est en rapport avec notre fidélité. Troisième point, la mission d'ambassadeur nous est confiée par Dieu lui-même, ainsi que le lieu où nous sommes appelés à la remplir.
Cette émission vous était proposée par John Graz. Retrouvez le contenu de toute la série dans son livre « Fortifie-toi et prends courage ».